pas faux. L'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Rémi.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans notre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Avril. Et aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre avec une jeune doctorante, Anaïs Hamel, grande gagnante de la finale normande de ma thèse en 180 secondes, un exercice oral sur scène où de jeunes doctorants viennent vulgariser leur thèse.
On abordera donc avec elle ce concours, son quotidien de doctorante, mais aussi la thématique de sa thèse consacrée à l'impact de la méditation sur la qualité du sommeil et à la consolidation des souvenirs chez le sujet âgé.
Et en deuxième partie d'émission, vous aurez l'occasion de découvrir la quatrième capsule consacrée à Réflexion, le projet qui met en valeur le travail de jeunes doctorants. Cette semaine, ce sera au tour de Gabriel Bernarguel, doctorant en architecture.
Mais avant cela, c'est l'heure des infos sciences de la semaine.
ChatGPT doit-il être stoppé ? C'est en tout cas la question que se posent de nombreux experts qui craignent un risque majeur pour l'humanité.
Oui, pour rappel, ChatGPT est une intelligence artificielle disponible facilement sur Internet qui peut répondre à toutes vos questions, analyser une image, rédiger un article, raisonner et même, depuis sa dernière mise à jour, résoudre un examen de physique de l'école polytechnique. Ce qui change, c'est que ces nouvelles IA sont génératives, elles créent du contenu contrairement aux générations précédentes à qui on a donné une tâche précise comme faire une partie d'échecs.
Mais alors pourquoi cette appli cristallise autant de critique.
Eh bien, le risque redoute beaucoup d'experts, d'ingénieurs ou de PDG du secteur technologique, c'est la perte de contrôle. Une centaine d'entre eux ont signé une pétition pour stopper la recherche pendant 6 mois sur ce genre d'intelligence artificielle qui pourrait entraîner le remplacement de beaucoup d'emplois, une désinformation à grande échelle ou encore des cyberattaques d'une complexité inédite. Bref, 6 mois de pause pour plancher sur des lois, des freins à ces innovations. D'autres voix s'élèvent pour continuer la recherche dans ce domaine pour mieux comprendre les enjeux autour de l'intelligence artificielle et mieux légiférer à faire à suivre. Elle sera la deuxième française astronaute, Sophie Adeno, commence enfin sa formation.
Et oui, depuis lundi, celle qui succédera à Claudie Nueret est à Cologne en Allemagne pour commencer sa formation. Une formation qui durera de 12 à 14 mois avec au programme des enseignements théoriques et pratiques, comme des exercices en piscine ou encore des exercices d'utilisation des outils de la station spatiale, le tout avec un suivi médical poussé.
Mais alors, quand devrait-on voir Sophie Adeno dans l'espace ?
Alors, ça n'est pas pour tout de suite, en tout cas pas avant 2026. À titre de comparaison, Thomas Pesquet fait partie d'une promotion sélectionnée en 2009, ce qui ne l'a pas empêché d'attendre 2016 pour pouvoir décoller. Pour rappel, Sophie Adeno fait partie d'une promotion de 5, choisie en novembre dernier parmi 23 000 candidats. On parle d'astronomie toujours avec la découverte d'un des plus gros trous noirs jamais observés.
Et oui, des astronomes viennent de détecter un trou noir que l'on peut qualifier de supermassif puisque sa masse est équivalente à environ 30 milliards de fois celle du Soleil. Selon l'astronome James Nightingale, l'un des auteurs de l'étude qui fait état de la découverte, si vous regardez le ciel nocturne, que vous comptez toutes les étoiles et les planètes que vous pouvez voir et que vous les placez en un seul point, cela représenterait une fraction de pourcent de la taille de ce trou noir. Il est plus grand que la majorité des galaxies de l'univers.
Et si on a pu découvrir ce trou noir, c'est grâce à une nouvelle technique.
Et oui, celle de la détection par lentille gravitationnelle, une technique qui permet aux astronomes de pouvoir repérer des trous noirs dans les 99% de la galaxie que les lentilles traditionnelles ne peuvent pas observer. Une découverte étonnante maintenant, certaines fourmis peuvent aider les chercheurs à traquer des virus et comprendre comment ils circulent.
Oui, donc une découverte surprenante mais très prometteuse. C'est une collaboration de plusieurs instituts de recherche français qui se sont penchés sur la question. Des fourmis légionnaires ont été déployées dans des forêts tropicales afin de détecter les virus présents dans les plantes, les insectes et les carcasses d'animaux.
Mais quelles ont de particulier ces fourmis légionnaires ?
Eh bien, elles font un peu la tâche d'un aspirateur à virus. Elles ne font que 1 cm de long, mais elles sont extrêmement voraces et agissent en colonie jusqu'à 500 000 individus pour faire des raids sur différentes cibles. Elles peuvent engloutir jusqu'à 2 kg de nourriture et donc ingurgiter une très grande diversité de virus. En analysant leur système digestif, les chercheurs peuvent savoir quels virus sont présents dans la forêt tropicale. Une découverte pour mieux connaître et appréhender la transmission de virus dans ces régions inhospitalières. On termine par une étude insolite, Rémi, les amateurs de café marchent davantage, dorment moins que les autres.
Oui Simon, une étude publiée jeudi dernier dans la revue The New England Journal of Medicine, en moyenne, après une tasse quotidienne, les buveurs de café marcheraient 1000 pas de plus que les autres, mais dormiraient 36 minutes en moyenne de moins.
Mais alors, à quoi cela est dû ?
Cela peut s'expliquer par des contractions ventriculaires prématurées, globalement, des battements de cœur irréguliers et anormalement fréquents qui nous poussent à bouger mais qui détériorent notre sommeil avec des palpitations cardiaques. Ce qu'il faut retenir, c'est que le café n'est pas mauvais pour la santé. Comme toute chose, c'est l'excès qui la rend dangereux.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Le 23 mars dernier se déroulait au Havre la finale régionale de ma thèse en 180 secondes, un événement organisé par Normandie Université qui vise à valoriser les travaux de recherche de jeunes doctorants.
Et nous avons la chance de recevoir aujourd'hui la grande gagnante du premier prix du jury, Anaïs Hamel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc doctorante à l'université de Caen et votre sujet de thèse porte sur l'impact de la méditation sur la qualité du sommeil et de la consolidation des souvenirs chez le sujet âgé.
Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet de votre thèse ?
Du coup, dans ma thèse, je m'intéresse à la qualité du sommeil, donc mesurée avec différents paramètres, à la fois objectifs. Donc, pour les participants, on va leur poser un appareil appelé polysomnographie qui va enregistrer leur sommeil pendant la nuit. Et on va s'intéresser au sommeil aussi de manière subjective avec des questionnaires où ils vont nous reporter, par exemple, leurs difficultés de sommeil, leurs plaintes, etc. Pour la mémoire, on leur fait passer un test. La veille, au soir, il y a l'apprentissage, il y a le rappel le lendemain matin. Comme ça, on voit à quel point la nuit permet de consolider leurs souvenirs.
Pourquoi avoir choisi ce sujet de thèse ? Est-ce que ça a un lien aussi avec le parcours ou est-ce que c'est venu un peu comme ça ?
Oui, alors en fait, quand j'ai fait ma licence, c'est là où j'ai commencé à faire un stage de recherche en laboratoire. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et particulièrement, j'étais très intéressée pour la mémoire. Donc après, j'ai fait un master de psychologie cognitive où j'ai continué à travailler sur la mémoire. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vu cette offre de thèse. Et je me suis dit, le sommeil, ça peut être très intéressant. Donc allez, c'est parti. Et j'ai pris mes valises et je suis venue à Caen pour cette thèse.
Alors pour comprendre sur quelles connaissances, quelles sources et quels outils vous utilisez pour vos recherches ?
Du coup, pour les connaissances et les sources, on va faire beaucoup de recherches bibliographiques. Donc, on va lire beaucoup d'articles scientifiques, d'autres chercheurs, pour comprendre la connaissance générale déjà établie. Au niveau des mesures, donc, c'est des mesures assez classiques, donc des questionnaires qui sont déjà utilisés, qu'on utilise, qui sont validés scientifiquement. Pareil pour les mesures d'enregistrement. Donc par exemple, on a une petite montre qui s'appelle l'actimètre, il est déjà utilisé dans différentes études. On a la polysomnographie, c'est un examen complet du sommeil qui a déjà été utilisé, donc on peut vraiment comparer nos résultats avec les autres études.
Et il y a une littérature scientifique qui est déjà beaucoup développée sur ce domaine-là, où il y a encore beaucoup à faire. Est-ce que vous partez vraiment de zéro, ou est-ce qu'il y a déjà beaucoup des travaux qui ont été effectués avant vous ?
Oui, il y a déjà beaucoup de travaux. Du coup, c'est pour ça que moi, dans ma thèse, je m'intéresse à un axe en particulier, qui s'appelle la connectivité fonctionnelle. Donc c'est la manière dont différentes régions du cerveau vont communiquer ensemble. Donc elles vont avoir le même décours temporel, la même activité sur une période de temps. Et ça, c'est un domaine qui a moins été exploré que juste la mémoire, le sommeil dans le vieillissement. Donc en fait, chaque thèse va apporter de la nouveauté en fait, dans un domaine en particulier.
Et pour bien comprendre, à quoi ressemble un peu votre quotidien ? Est-ce que même il y a un quotidien pour un doctorant ? À quoi ressemblent vos journées, vos semaines ?
Alors, un quotidien. C'est vrai que le quotidien varie énormément d'une période à l'autre, par exemple. Au début de ma thèse, je faisais beaucoup de revues de littérature, justement, pour savoir les connaissances qui étaient déjà établies sur ce sujet. Maintenant, ça a un peu évolué parce que, en fait, je donne des cours à côté. Donc, il y a toute la partie préparation des cours, donner des cours, avoir des interactions avec les étudiants, corriger aussi leurs copies. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Après, donc en ce moment, je fais de l'analyse statistique. Donc, je suis beaucoup derrière mon ordinateur à regarder, à tester mes hypothèses, à voir les résultats. Et après, il y a tout ce qui se fait à côté. Donc, pour la vie du labo, on a beaucoup de réunions. On organise, par exemple, en ce moment, la fête de la science. Enfin, on fait la préparation pour la fête de la science. Voilà. Après, on a aussi des soutenances de thèse auxquelles on assiste. Donc ça, c'est pas tous les jours, évidemment, mais de temps en temps, ça rythme un peu la vie de doctorant. Et également, je fais ma thèse en co-tutelle avec l'Université libre de Bruxelles. Donc, il y a des périodes aussi où je vais être à Bruxelles. Donc ça change un peu d'un laboratoire à l'autre, le mode de fonctionnement.
Mais parce que ça va aussi évoluer au cours de l'année, parce que là, vous êtes en deuxième année, c'est ça, de thèse ?
Exactement, oui.
Et ça, il y a déjà une différence entre la deuxième et la première année ?
Ah oui, clairement. En fait, en première année, généralement, on apprend à découvrir notre sujet de thèse. En particulier, si on n'a pas fait le stage de Master 2 sur cette thématique. Donc la première année, c'est un peu la grande découverte, tout est nouveau, on a envie de tout savoir et on est un peu plus naïf. Alors qu'en deuxième année, déjà le rythme s'accélère un petit peu et on va faire plus d'analyses statistiques pour voir les résultats. Il y en a certains qui vont commencer à écrire des articles ou des revues. Donc voilà, on avance dans le projet en fait.
Est-ce que c'est simple de trouver des patients, enfin de trouver des patients disponibles pour vos travaux ?
Alors ça, encore une fois, ça varie beaucoup d'une étude à l'autre. Nous, on travaille sur une population âgée dans un centre de recherche. Donc en fait, je suis arrivée sur le protocole où les participants, ils étaient déjà inclus dans le protocole, en fait. Donc j'ai pas eu cette problématique de chercher des participants.
Quels sont les... On parlait du coup de participants pour pouvoir aboutir à des premières découvertes. Est-ce que vous avez déjà pu faire quelques premières découvertes dans vos travaux ?
Alors pour mes débuts de travaux, comme je n'ai pas travaillé sur le sommeil et la mémoire dans le vieillissement avant ma thèse, donc j'ai passé beaucoup de temps à faire de la revue de littérature. Et maintenant, j'essaye de développer de nouvelles techniques, de m'auto-former sur des techniques beaucoup en lien avec les mathématiques pour étudier justement la connectivité entre différentes régions du cerveau. Et du coup, là, je suis en plein dans les analyses statistiques et pour l'instant, j'ai pas pu mettre en lumière certains résultats.
Et pour entrer un peu dans le cœur de votre thèse, pourquoi est-ce que la méditation joue un rôle bénéfique pour le cerveau ?
Alors, la méditation, ça va... Si on propose une définition, ça a pour but de réguler les processus attentionnels et émotionnels. Donc de porter attention sur le moment présent, instant par instant, sans jugement. Donc la méditation, ça va permettre différents processus, de favoriser ces processus, notamment la conscience de soi, la régulation émotionnelle et le contrôle de l'attention. Ça va limiter certains facteurs comme la rumination mentale. Du coup, par tous ces processus, ça va permettre de conserver un cerveau jeune.
Et du coup, pourquoi est-ce que ce serait plus bénéfique, entre guillemets, pour les personnes âgées ? C'est plus pour le côté de ralentir les dégradations qui peuvent y avoir au cours du vieillissement ?
Oui, exactement. En fait, la méditation, c'est bénéfique à tout âge, mais en particulier dans le vieillissement, parce que, comme je viens de le dire, ça permettrait d'avoir un cerveau qui serait jeune, et notamment une diminution de la baisse des fonctions cognitives qui arrivent avec l'âge.
Et est-ce qu'on connaît les régions du cerveau qui sont en action lorsqu'on fait de la méditation ?
Dans le vieillissement, les connexions cérébrales, elles vont être un peu plus floues. Les régions qui sont normalement, qui fonctionnent par réseau et qui doivent être spécialisées entre eux, ils vont moins être spécialisés. Et des régions qui doivent être vraiment différenciées, ils vont moins être différenciées. On parle notamment d'un réseau qui s'appelle le réseau du mode par défaut. Le réseau du mode par défaut, c'est un réseau qui va s'activer quand on ne fait pas de tâches en particulier. Donc, par exemple, quand on est au repos et qu'on ne fait pas de tâches, mais éveillé. Et ce réseau, il comprend notamment des régions importantes pour la mémoire, comme l'hippocampe, d'autres structures frontales et des régions centrales aussi dans le cerveau, comme le précuneus.
Et je suppose que du coup, les régions... du cerveau qui vont être mises en action dans la mémoire et dans le sommeil, c'est les mêmes aussi ou ça n'a rien à voir ?
Justement, c'est une très bonne question. C'est un peu ce qu'on essaye de voir aussi dans mon étude. Notamment, on sait que le thalamus joue un rôle fondamental dans le sommeil pour la génération d'éléments qui vont favoriser la mémoire. Et du coup, je vais regarder aussi son rôle dans la méditation.
Est-ce qu'on a une idée un peu de la fréquence de la pratique de la méditation pour qu'elle soit efficace ? Est-ce qu'il faut faire ça chaque jour, chaque semaine ?
Ça varie aussi d'un individu à l'autre, notamment parce qu'il y a des personnes qui vont répondre en fait à la méditation, qui vont être plus sensibles à la méditation. Donc c'est un peu compliqué de proposer une fréquence par personne. Mais par contre, il y a des protocoles en psychologie qui se basent sur... la pratique de la méditation pendant 8 semaines. Donc, généralement, on utilise ce genre de protocole pendant 8 semaines et on regarde les effets de l'intervention avant et après.
Mais concrètement, parce que c'est vrai qu'on parle de méditation, mais au premier abord, on imagine tout ce que ça peut être, mais comment est-ce qu'une méditation peut être efficace ? Comment on médite finalement pour que ça puisse être bénéfique pour le cerveau ?
Alors, comment on médite ? C'est vrai que ça peut être un peu compliqué et un peu abstrait, en fait, de se dire que la méditation, ça peut avoir beaucoup d'effets bénéfiques pour le cerveau. Ce que je conseillerais pour méditer, c'est de le faire avec un instructeur, une personne qualifiée. Et durant des séances de méditation, cette personne va pouvoir vous guider, en fait, en disant, alors là, on va se concentrer sur sa respiration comme point d'ancrage. Et en fait, on va se laisser guider par ce flow. Et au fur et à mesure des séances de méditation, on va prendre conscience de certains événements et on va pouvoir aussi échanger avec l'ensemble du groupe pour dire, ah bah, tel processus, c'était plus compliqué à mettre en place que tel autre, et on va échanger, on va avoir des retours, et nous-mêmes, on va progressivement comprendre qu'on est en train de méditer.
Donc c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose comme ça, en claquant des doigts, hop, on arrive à méditer.
Je ne pense pas qu'on puisse arriver à méditer en claquant des doigts. Après, je pense que ça dépend aussi du mode de vie. Par exemple, c'est vrai que ça peut faire un peu cliché, mais on imagine que les personnes à la montagne qui se posent, qui respirent, qui prennent le temps de prendre conscience de leur moment, de leur environnement, d'écouter les sons, etc. Ils vont peut-être être, pour certaines personnes, plus propices à méditer.
On continue de parler avec vous, Anaïs Hamel, mais avant, on va faire une petite pause musicale et écouter Chica de Scopitone Cisco. À tout de suite dans C'est pas faux.
De Scopitone Cisco, vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux, et aujourd'hui nous sommes avec Anaïs Hamel, doctorante en psychologie et grande gagnante de la finale régionale de ma thèse en 180 secondes.
Et ma thèse en 180 secondes, on va en parler justement, c'est un grand événement présent dans toute la France qui permet à des jeunes doctorants et doctorantes de valoriser leurs travaux, et la finale se tenait le 23 mars dernier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe ?
Oui, alors le concours ma thèse en 180 secondes, ça permet exactement de vulgariser sa thèse en 3 minutes, et le but de ce concours, c'est finalement de faire un peu sortir la recherche des labos de recherche et de pouvoir communiquer avec le public. Donc pour ce concours, on a été formé, on a suivi une formation avec le DOM, Normandie Université et des agents du CNRS. où on a pu s'entraîner, voir les étapes, le processus, pour pouvoir avoir notre projet final.
Vous avez dit communiquer, est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez participé à ma thèse en 180 secondes ?
Oui, exactement. Alors, souvent mes amis me disent qu'ils ne comprennent pas forcément mon sujet de thèse. Alors là, je me suis dit, allez, c'est un challenge personnel de réussir à le vulgariser en 3 minutes, parce que tout ce temps passé dans le laboratoire en 3 minutes, finalement, il faut vraiment sélectionner les éléments importants. Aussi, de pouvoir être comprise par mes proches, que ce soit mes grands-parents ou mes amis ou mes collègues.
Vous évoquiez tout à l'heure donc, le Dôme, Normandie Université et les agents du CNRS qui vous aident à vous préparer. Mais concrètement, comment on se prépare à un événement comme celui-là ?
Alors déjà, ce qui est bien, c'est que la préparation commence en janvier et finalement, la représentation est en mars. Donc, je pense que c'est très important d'avoir du temps pour se préparer. On va déjà choisir un peu la thématique, la tonalité qu'on veut donner à cette représentation. Si on veut avoir quelque chose de dramatique, quelque chose de plutôt comique... Ensuite, on a le droit à un support visuel, donc à une slide. Donc on va réfléchir aussi à ce qu'on veut représenter. Et puis notre texte. On va choisir les éléments clés aussi qu'on veut intégrer à ce texte. Et évidemment, il faut aussi être marquant. Donc souvent, on utilise des métaphores pour que ce soit compréhensible et aussi que le public puisse se rattacher à quelque chose qu'il connaît.
Il y a un peu un côté théâtral à vous entendre. Est-ce que vous avez été coachée ? Est-ce que vous avez obtenu de l'aide ? Vous avez été soutenue ?
Oui, j'ai eu la chance d'être beaucoup soutenue. On a fait des représentations, en fait, entre doctorants pendant la formation. Et ça nous a beaucoup aidé, notamment pour certaines choses auxquelles on ne pense pas, comme par exemple tenir son micro près de la bouche pour pouvoir parler ou des petites choses comme ça. Après, j'ai beaucoup répété devant mes amis, des amis qui étaient doctorants, qui m'ont conseillé, mais aussi des amis qui n'étaient pas doctorants et qui ont pu vraiment m'aiguiller sur la gestuelle ou sur les tonalités à suivre.
Comme on l'a dit, vous avez donc remporté la finale normande. Et au dire de certains membres du jury, cette finale, elle était très serrée. À votre avis, qu'est-ce qui a fait la différence ? C'est le moment de vous la péter un peu.
Oui, c'est très subjectif parce qu'il y avait beaucoup de très très bons candidats. Donc, qu'est-ce qui a fait la différence ? Peut-être que je les ai plus marqués à ce moment-là. En tout cas, j'ai tout donné, mais c'est vrai que c'est vraiment chouette qu'il y ait eu 3 prix et que 3 personnes différentes aient pu être récompensées. C'était vraiment d'un très haut niveau. Après, qu'est-ce qui a fait la différence ? Je sais pas.
C'est ça, parce qu'il y avait deux prix du jury et un prix du public, c'est ça ?
Exactement, oui.
Alors ma thèse en 180 secondes, c'est aussi l'occasion de valoriser ces travaux, vous l'aviez auprès de vos amis, mais aussi peut-être du grand public. Pourquoi est-ce que c'est important en tant que doctorante de valoriser ces travaux de recherche ?
C'est très important de valoriser ces travaux de recherche parce que si la recherche reste seulement dans les labos, si c'est juste les chercheurs qui vont lire les articles scientifiques et que finalement ça ne sort jamais, on ne pourra jamais effectivement mettre en place des interventions non pharmacologiques pour aider certaines pathologies, certains patients, on ne pourra jamais aller plus loin. Donc il faut vraiment faire le lien entre la population et aussi si ça peut prévenir ne serait-ce qu'une personne que méditer, ça peut être bon pour le bien-être dans le vieillissement, bah alors là, j'ai tout gagné.
Et vulgariser, ça peut aussi donner envie à des gens de se lancer dans la recherche, parce que ça, comme c'était évoqué, c'est quand même très abstrait, on se dit pas tous je vais être chercheur ou chercheuse. Est-ce que c'est aussi une volonté en participant à ma thèse en 180 secondes ?
Oui, ça fait partie du concours et c'est toujours un plaisir quand des personnes sont intéressées par la recherche. D'ailleurs, j'ai la fille de la mère d'une amie qui a dit « Oh, j'ai vu ta prestation, c'est très intéressant, j'aimerais bien parler avec toi ». Et forcément, c'est très valorisant et c'est primordial d'échanger sur nos sujets. Oui.
Alors la demi-finale nationale s'est déroulée la semaine dernière. Malheureusement, vous n'avez pas été qualifié pour la grande finale nationale, mais vous avez quand même gagné le premier prix. Quel bilan vous tirez de l'expérience ma thèse en 180 secondes ?
Alors, je m'en tirerai un bilan très positif et je recommande à toutes les personnes doctorantes de le faire et à toutes les personnes qui souhaitent un jour se représenter sur scène de le faire aussi. Et cette expérience en particulier, j'ai pu rencontrer plein de doctorants sur des thématiques très différentes. Donc c'est vraiment très intéressant et d'un point de vue personnel, je me suis vraiment challengée, je suis allée au bout de moi-même et en fait j'ai vraiment aimé et profité. Et du coup, je vais peut-être poursuivre en faisant du théâtre.
Merci beaucoup Anaïs Hamel d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc vous êtes doctorante en psychologie et grande gagnante de la finale normande de Mathèse en 180 secondes. Bonne journée à vous.
Merci, bonne journée à vous aussi.
Bonne journée.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Merci encore à Anaïs Hamel d'avoir répondu à nos questions. On reste d'ailleurs sur la thématique de la valorisation des jeunes doctorants, puisque tout de suite, et comme toutes les deux semaines, nous donnons la parole aux jeunes doctorants qui participent au dispositif Réflexion.
Et cette semaine, nous vous proposons d'écouter Gabriel Bernard-Guel. Il est doctorant en architecture au laboratoire ATE à l'École nationale supérieure d'architecture de Normandie. Et il travaille actuellement sur une thèse consacrée à l'étude de l'enseignement de la construction entre 1920 et 1970 à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris en France et à l'École technique supérieure de Munich en Allemagne.
Réflexion. Entrée dans les coulisses de la recherche normande.
Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à faire cette thèse ?
En fait, j'ai toujours voulu faire une thèse en architecture. J'ai fait un double cursus architecte-ingénieur et dès le début de mon double cursus, je me suis demandé pourquoi en fait on faisait ce double cursus-là, parce qu'il a toujours existé des architectes, des ingénieurs, et je me suis dit pourquoi proposer un double cursus architecte-ingénieur alors qu'avant on faisait une école puis on faisait l'autre et c'était fini. Et pendant ma licence, j'ai fait l'histoire de la relation entre architecte et ingénieur comme mémoire de licence. Puis j'ai fait un mémoire de master en 4 ans au lieu de 2. Et finalement, je me suis dit que une thèse dans la continuité, c'était bien.
Justement, cette thèse, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Quel est le sujet et comment tu as travaillé dessus ?
Le sujet de ma thèse, c'est l'enseignement de la construction aux architectes entre 1920 et 1970 en France et en Allemagne. Donc, l'idée de cette thèse, ça part de mon mémoire de master, déjà de mon mémoire de licence qui était sur le rapport entre architecte et ingénieur, et en fait, l'enseignement de la construction, c'est un enseignement qui est commun aux architectes et aux ingénieurs, mais qui est enseigné différemment selon qu'on l'enseigne aux architectes ou aux ingénieurs. Donc pour mon mémoire de master, je m'étais dit, je vais regarder un enseignement de la construction qu'on a dit ne pas être un vrai enseignement de la construction. J'ai regardé l'enseignement de construction de David George Emmerich, qui est un enseignement qui met en relation la conception spatiale et structurelle à travers la géométrie. Et à partir de là, je me suis dit, pourquoi pas regarder plus loin et comprendre pourquoi, aujourd'hui, on critique encore l'enseignement de la construction. Je suis certain que vous avez déjà entendu quelque chose comme « Ah non, mais les architectes, ils savent pas construire. » Ou « Oh, j'ai pris un architecte, mais mon Dieu, il connaît rien à la construction, qu'est-ce que c'est compliqué !» Et voilà, je me suis dit, pourquoi en fait on continue de dire ça ? C'est quelque chose qu'on disait déjà au 19e siècle, c'est quelque chose qu'on a dit au début du 20e siècle, c'est quelque chose qu'on dit encore aujourd'hui. Donc, je me suis dit, je vais faire cette démarche historique d'aller voir quand est-ce que l'enseignement de la construction a été réformé, par rapport à son contexte social, intellectuel et professionnel, qu'est-ce que ça dit ? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire plus tard pour mieux enseigner l'enseignement de la construction, pour mieux enseigner la construction et pour voir comment mieux former les architectes à la construction.
Tu as choisi en plus une période historique qui est quand même très très précise. Enfin, tout le sujet de ton mémoire est très très précis, est très précis, que ce soit au niveau de la période et aussi au niveau des lieux choisis. Donc tu es focus sur la France et l'Allemagne, c'est ça ?
Exactement.
Pourquoi justement faire ces choix ? Pourquoi ici et pas ailleurs ?
Alors 1920, c'est la réforme de l'enseignement de la construction à l'École des Beaux-Arts par un professeur qui s'appelle Édouard Arnault, qui vient d'être appointé et qui en fait a mené une réforme de l'enseignement de la construction à l'École centrale des arts et manufactures, qui est une école d'ingénieurs, pendant les 10 années précédentes. Et il va utiliser cette réforme-là pour réformer l'enseignement de l'architecture. Déjà, 1920, c'est ma date de départ parce que c'est une réforme de l'enseignement de la construction dans une des écoles les plus importantes de l'enseignement de l'architecture à cette période, au début du XXe siècle. Et ensuite, j'ai choisi comme terrain d'étude une autre école d'architecture à Munich, qui s'appelle la Technische Hochschule de München. Et dans cette Technische Hochschule, en fait, ils ont fait aussi une réforme en 1920 de l'enseignement de la construction. Donc je me suis dit que c'était intéressant de commencer en 1920, vu qu'il y avait deux écoles qui avaient une influence, on va dire, pour l'école de Munich régionale et pour l'école des Beaux-Arts, une influence nationale, qui avait fait une grande réforme à ce moment-là, à l'issue de la Première Guerre mondiale, avec tous les changements professionnels de l'époque dus à la première reconstruction. Et ensuite, 1970, c'est parce qu'en 1968, vous êtes probablement au courant, il y a eu des mouvements étudiants qui ont aussi transformé l'enseignement de l'architecture en France. En fait, on est parti d'une école centralisée, qui est l'école des Beaux-Arts, qui a explosé en 20 écoles d'architecture. Donc, pour moi, c'était intéressant de regarder, après 68, ce qui se passe, mais pas trop longtemps après, parce que 20 écoles dans une thèse...
Ça fait beaucoup.
Beaucoup trop. Donc, je me suis dit, les deux années qui suivent, pour voir un peu comment ils réinterprètent l'enseignement de la construction, quelles sont leurs idées, quelles sont leurs propositions, et qu'est-ce qu'ils proposent par rapport au modèle précédent. Et en Allemagne aussi, ce qui est bien, c'est que ce mouvement étudiant a été à l'échelle européenne. Donc on a aussi des mouvements étudiants dans les années 68 en Allemagne qui demandent des réformes de l'enseignement et de l'architecture et notamment de la construction.
C'était quoi du coup tes sources ? C'est des documents historiques ? C'est des livres ?
Alors mes sources, c'est un peu de tout. J'ai beaucoup d'archives historiques qui sont disponibles soit aux Archives nationales de France, soit aux archives de la Cité de l'architecture et du patrimoine, donc au Centre d'archives d'architecture contemporaine. Donc ce sont des archives d'enseignants qui ont été données par les familles ou par les écoles. Et on a des manuels, des photographies, beaucoup de dessins, de quelques photos de maquettes parfois quand j'ai de la chance. Et je complète ça avec des entretiens d'anciens élèves ou de personnes qui ont connu ces enseignants pour essayer de un peu mieux comprendre comment ils pensaient leur métier, qu'est-ce que c'était pour eux que d'enseigner la construction. J'ai fait la même chose en Allemagne, où je suis allé aux archives régionales de Bavière et dans les archives aussi de l'Université technique de Munich.
Ça fait combien de temps déjà que tu l'as commencé cette thèse ?
Je suis en troisième année.
Donc, c'est bon. Donc est-ce que tu as déjà des premiers résultats sur tes recherches, des découvertes particulières que tu as pu faire ?
Ce que je trouve intéressant, c'est que aujourd'hui encore, dans le milieu de l'architecture, la question de l'enseignement de la construction reste une question d'actualité, avec des débats qui ressemblent à ceux qu'on avait en 1920, et en 1940, et en 1960. Et je vois que les réponses qui sont apportées sont un peu les mêmes qu'à l'époque, c'est-à-dire que ce sont des enseignants qui cherchent à trouver une forme d'enseignement de la construction. Mais il n'y a pas forcément de débat sur la pédagogie ou sur la manière dont on conçoit cet enseignement-là. Donc ce que j'espère apporter avec ma thèse, en tout cas comme résultat, c'est des pistes pour penser la conception de l'enseignement de la construction en ayant conscience des conséquences de cette conception-là. C'est-à-dire que, en fait, l'enseignement de la construction qu'on définit aujourd'hui, il doit non seulement répondre à des problématiques actuelles, mais il doit aussi définir quel architecte on veut former et qu'est-ce qu'on veut faire de la profession architecturale et de la relation de l'architecte à l'ingénieur et à la technique dans son métier.
Justement, la suite pour toi, c'est continuer dans ce sujet de thèse, dans l'enseignement de l'architecture. Tu l'as dit, avec des problématiques actuelles, je pense notamment à l'écologie. Bon, c'est ce genre de cursus que tu veux suivre ?
Alors, j'aimerais pouvoir enseigner. Je ne sais pas si c'est possible, parce qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Beaucoup de personnes qui font des doctorats et peu de places comme enseignants dans les écoles d'architecture. Donc, si j'ai la chance de pouvoir le faire, j'aimerais devenir enseignant. Et si c'est pas le cas, j'espère contribuer, notamment dans le monde associatif, à ce genre de réflexion.
En ce moment, donc, tu participes au projet Réflexion. Est-ce que c'est un bon moyen pour toi ? Enfin, déjà, pourquoi est-ce que tu choisis de faire ça ? Est-ce que c'est un bon moyen de valoriser cette thèse ? Ou est-ce que aussi t'as d'autres objectifs derrière à travers cette participation ?
Alors, très honnêtement, il manquait quelqu'un et on m'a proposé.
C'est une réponse.
Donc, je suis content de le faire parce que je trouve que c'est une bonne occasion de tester d'autres moyens de médiation, d'autres moyens de diffuser la recherche et à la fois de la vulgariser, mais aussi d'intéresser des gens à la recherche et surtout à la recherche en architecture qui est encore moins connue que la plupart des... la plupart des autres domaines universitaires. Donc voilà, c'est une bonne opportunité.
Est-ce que tu avais un peu d'appréhension avant de commencer ta thèse ? Tu l'as dit, voilà, y a plusieurs disciplines, l'enseignement, l'architecture, donc il y a aussi un aspect historique et puis des enjeux actuels. Est-ce que tu avais un peu d'appréhension avant ta thèse ?
Comment ça ?
Est-ce que tu avais des doutes ou pas, ou tu étais vraiment persuadé que c'était le chemin que tu voulais suivre ?
Est-ce que je voulais faire une thèse ?
Ouais.
C'est ça la question ?
Oui, et si tu avais des appréhensions ?
Non, j'ai toujours aimé étudier, j'étais content d'être là, c'était une occasion d'en apprendre plus, de faire des choses que j'aime. J'ai toujours été passionné d'histoire, même pour moi, à mes heures perdues, donc c'était l'occasion de me professionnaliser dans ce domaine-là, c'était bien aussi.
Merci beaucoup Gabriel, et on te souhaite bon courage dans la suite de ta thèse, et bonne dernière année du coup de thèse.
Merci, c'est gentil.
Bonne journée, salut.
Salut.
Merci encore à Gabriel Bernal-Gouel. N'hésitez pas à suivre son quotidien de doctorant et celui des 9 autres participants de Réflexion en vous rendant sur Instagram sur le compte Réflexion.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Et avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine.
Et on commence cet agenda avec le Turfu Festival qui se tiendra la semaine prochaine du 11 au 15 avril au Dôme. 5 jours durant lesquels se dérouleront des ateliers et des temps d'échange entre les publics et les chercheurs, journalistes, entrepreneurs ou professionnels des arts et de la culture. L'objectif de ces rencontres, faire émerger des solutions collectives face aux enjeux d'avenir tels que l'environnement, la santé, l'alimentation, l'urbanisme ou encore le numérique. L'équipe de C'est pas faux s'y rendra d'ailleurs pour une émission en direct mardi prochain. Pour plus d'informations sur le programme, n'hésitez pas à vous rendre sur le site turfu-festival.fr.
Et comme chaque semaine, une recommandation reportage, hier, le président Emmanuel Macron a annoncé vouloir un projet de loi sur la fin de vie d'ici la fin de l'été. Une émission spéciale sur LCP vous sera proposée demain soir, mercredi 5 avril, sur la question de la fin de vie. Plusieurs cas de figure ont remis en cause la loi actuelle et une convention citoyenne a été créée pour en débattre et trouver des solutions. Convention citoyenne, une loi pour choisir sa mort, c'est ce mercredi soir à 20h30 sur LCP.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter les précédentes émissions et cette émission en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Emmanuel qui a réalisé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, vous retrouvez Chloé pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.